à voix nue. Ce soir encore, Corinne Renoux-Nativelle rencontre Michel Oslo. Tout de suite, le goût de transmettre.
Bonsoir Michel Oslo.
Bonsoir Corinne.
Vous êtes le réalisateur de Kirikou, d'Azur Asmar et beaucoup d'autres films magnifiques. Souvent, ces films, vos films, ont trouvé des prolongements en livres et sur scène.
J'espère toujours que, après peut-être une heure et demie de plaisir en voyant un film, toutes sortes de choses continuent. J'ai aussi bien le sentiment de semer. Je sais qu'une partie des graines ne germera pas et qu'il y en aura qui germeront. Et je mets toutes sortes de petites choses dans les films, on s'en aperçoit pas. La plupart des gens n'est pas consciente de cela. Mais c'est clair que un jour ou l'autre, des gens réagiront, quelque chose poussera, de nouvelles actions se développeront. Et faire des livres, c'est aussi une chose qui me plaît. Et quand je fais des livres, ce ne sont pas des droits dérivés tirés du film, même si je fais toujours le film avant le livre. Je fais des livres, j'aime les livres. C'est moi qui écris, ça n'est pas des droits dérivés. J'écris la version livre et page qu'on tourne. Je choisis les illustrations. Je travaille en harmonie avec l'éditeur. Mais c'est un vrai ouvrage de librairie et c'est plus du cinéma. Et c'est aussi une manière de continuer l'histoire, parce que ça se consomme d'une manière très différente, le livre. C'est plus commode que le spectacle qui bouge. Il y a eu aussi un développement à propos du spectacle qui bouge, une comédie musicale sur scène avec Kirikou, qui m'a beaucoup plu. C'était une très belle expérience. J'étais là très, très présent, même si je n'étais pas le metteur en scène ni le chorégraphe, c'était Wayne McGregor. Mais bon, j'étais auteur du livret, des chansons, et j'aidais les comédiens à dire leurs textes, parce que Wayne McGregor ne parle pas français. Anglais, il parle très bien.
Des prolongements dans la vie également, Michel Oslo, de vos films? Est-ce que vous pouvez revenir sur...
Ils sont très forts. Je suis probablement un auteur comblé dans ce domaine. J'ai de tels retours, quelquefois un peu troublants. Ça va au-delà de ce que j'imaginais. Et quelquefois, c'est très grave. Par exemple, une psychologue qui a été violée dans son cabinet a voulu me rencontrer. Et elle est venue ici, assise dans le fauteuil où vous êtes assise. Et c'est quelque chose quand une personne qui a été violée veut vous rencontrer. Elle s'est dit, quand ce malheur est arrivé, qu'avec son métier, elle allait s'en tirer. Mais non, elle était toujours vulnérable au moindre problème. Et pendant 6 ans, elle ne s'est pas sortie de la malédiction. Et un jour, elle a montré Kirikou et les sorcières à ses enfants. Et puis, plus tard, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Caraba? Elle l'a revu pour elle. Et elle s'est soignée avec ce film. Elle a d'abord écrit une sorte de thèse que j'ai lue. C'était très dur à lire. Mais toutes les quelques pages, il y avait une page Kirikou avec des images. Ensuite, elle a écrit un livre qui s'appelle Viol et Renaissance. Et elle soigne d'autres victimes avec le film. Donc là, tout ça me dépasse.
Excusez-moi Michel Oslo, il faut peut-être rappeler que Caraba est la sorcière de Kirikou et la sorcière, et que, effectivement, en prêtant bien l'oreille, en étant attentif, on comprend que Caraba, l'origine de sa méchanceté, c'est un viol collectif qu'elle a subi elle-même.
C'est vrai, j'oublie toujours des choses qui me semblent évidentes, mais il y a beaucoup d'adultes qui n'ont absolument pas compris ça, mais les enfants l'ont compris. Il y a toujours dans le public enfant quelqu'un qui me dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé à Caraba, qui sont ces hommes, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Ils sentent bien qu'il y a une chose. Voilà, il y a d'autres événements dans ma vie qui sont moins dramatiques, mais qui le sont quand même. Un petit enfant autiste qui restait 2 ans sans bouger, sans parler, qui se séparait totalement de la vie autour de lui. Et un jour, sa mère lui a mis sur l'écran Kirikou. Et le petit garçon s'est mis à bouger et à avoir des sons qui sortent de sa bouche. Et c'était une renaissance. Il a redemandé Kirikou. Il pouvait le voir de 3 à 10 fois par jour. Et petit à petit, il bougeait plus, il parlait plus, et ensuite il imitait tout ce que faisait Kirikou. Et il est revenu à la vie que nous connaissons, et maintenant c'est un petit garçon qui se développe bien, et tout va bien.
De la même façon, vous-même, vous aviez grandi dans un contexte comme ça de bienveillance.
Oui, c'est vrai, oui.
Michel Osso, je voulais qu'on aborde avec vous votre nouveau projet, Dilili à Paris, qui transporte dans un univers peut-être plus familier, le Paris de la Belle Époque, que découvre une jeune métisse néo-calédonienne. Est-ce que cette fois, le financement a été facile à trouver?
Alors, je me suis mis à écrire un projet, assez vite comme d'habitude, et je l'ai vite apporté à mon producteur préféré pour entendre des cris d'extase devant ce nouveau projet. Et puis les cris d'extase ne sont pas venus. Et après une longue attente, le producteur m'a dit « Je ne peux pas défendre cette histoire, je ne la produirai pas. » Il m'est arrivé aussi quelque chose, j'ai reçu des lettres anonymes, 11, qui critiquaient mon projet, un peu comme un jeu de massacre. C'était une drôle d'expérience. Et puis, aucune télévision n'a voulu du projet. Des grands organismes qui aident le cinéma français ont dit non. Le CNC, qui d'habitude... qui m'a donné plusieurs fois l'avance sur recette qui permet de commencer le film, ne me l'a pas donné, ne me l'a pas donné, m'a invité à revoir ma copie et à comparer devant un jury, toute chose qui ne m'était jamais arrivée.
Mais pourquoi alors, Michel Oslo? Qu'est-ce qui se passe autour de ce film?
On ne m'a jamais bien dit pourquoi, mais... C'était une drôle de situation, après une vie de bons et loyaux services, que je n'arrive pas à faire encore un film qui célèbre une civilisation, Paris, la civilisation occidentale, et qui défend aussi les femmes et les filles. C'était un drôle de moment, mais je continuais à travailler, à vérifier mes écrits. J'ai commencé à faire des dessins. Je suis aussi allé me promener. Comme je sentais que j'étais entre deux films, d'habitude je refuse beaucoup d'invitations. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'accepter les invitations, et je suis allé, je crois, en un an et demi, en Italie, en Turquie, en Roumanie, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, au Venezuela, au Mexique, au Maroc.
Oui, effectivement.
Parce que j'existe au moins à l'étranger. Mais parallèlement à ce mauvais accueil, j'ai eu aussi l'inverse. Si la profession semblait ne plus s'intéresser à moi, j'étais bien reçu par Paris, d'une manière extraordinaire. Paris m'acceptait comme faisant partie des meubles. Et au début, je demandais des autorisations avec quelques timidités. Et puis je me suis aperçu que toutes les portes s'ouvraient devant moi. J'ai demandé au musée d'Orsay de prendre des photos le jour de fermeture. Et j'ai eu accès au musée d'Orsay complet. J'étais seul dedans, je prenais toutes les photos que je voulais, j'y suis retourné et je pense que demander une autorisation pour une troisième tant que j'y suis, j'ai pris toutes les photos que je voulais. Il s'est passé la même chose pour Rodin, Rodin à Meudon, Rodin à Paris. Il s'est passé la même chose pour le musée Marmottan, je voulais photographier une des peintures de Monet. Il s'est passé la même chose pour le musée Carnavalet, il y a en particulier la chambre de Proust, et j'ai posé la question en disant, je sais que vous allez répondre non, mais je pose la question. Je montre dans le film Proust et René Aldohan, et je sais que ce divan, c'est René Aldohan qui l'a offert à Proust, et j'aimerais qu'on le tire pour que je puisse le photographier. Bon, on a tiré le sofa, je l'ai photographié. Je suis aussi allé à Nancy, au musée de l'École de Nancy, parce que je veux célébrer avec Paris 1900 l'Art Nouveau. Et l'Art Nouveau a une des bases, c'est Nancy. Il y a aussi les portes de l'opéra qui se sont ouvertes. J'ai pu photographier les parties splendides de l'opéra et aussi le sous-sol pour aller vers le lac souterrain et aussi le toit qui est interdit. Et j'ai pu le photographier par temps de pluie et par temps de soleil. Et c'est pas tout. Les égouts aussi se sont ouverts devant moi. Il y a d'abord un très beau musée qui est près du pont d'Iéna, qui est passionnant. Mais j'avais besoin de voir une galerie longue et pas mise aux nettes comme dans le musée. Qui est installé dans des égouts qui fonctionnent. Mais les égouts se sont ouverts devant moi. On m'a accueilli où je voulais. On m'a habillé en égoutier. Et j'ai pu photographier un embranchement et une des plus longues galeries du réseau. Et ça, c'était sensationnel.
Donc, Michel Leslot, pour ce travail préparatoire pour Dilili à Paris, vous prenez des photographies, ce qui n'est pas du tout habituel pour un film d'animation.
Je prends des photos parce que tous les décors et les objets vont être vrais. Parce que je célèbre Paris en 1900, mais il n'y a aucune idée de nostalgie. Tous les artistes et les grands cerveaux que je célèbre nous sont encore utiles aujourd'hui. Et ce que je montre de Paris existe toujours. Tout ce que je montre, on en jouit aujourd'hui. D'une part. D'autre part, ce que je montre est magnifique, a été fait par des gens qui ont énormément travaillé pendant longtemps, et il n'est pas question que je repeigne avec une pauvre petite palette graphique le foyer de l'opéra. C'est renversant. Il n'est pas question que je refasse certains objets art nouveau sculptés dans du bois avec des incrustations de nacre et de topaz. Tout ça, c'est du vrai et je veux le montrer au maximum. Je le photographie. Donc tout le film sera fait dans des photographies et c'est ça qui m'intéresse.
Cela signifie, Michel Oslo, que ce sont des images réelles?
Les personnages seront du dessin animé et ils évolueront dans la réalité.
D'accord. Et là, après plusieurs héros masculins, enfin une héroïne féminine. Vous qui, à plusieurs reprises, avez montré de très belles figures maternelles, vous n'aviez jamais mis un personnage féminin au centre d'une histoire.
C'est vrai. Quelquefois, les petites filles me disaient « Mais pourquoi t'as pas fait une petite fille ?» Bon, je disais oui, mais je suis un garçon, alors j'ai fait Kirikou plutôt que Kiriquette. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le sujet. Une des choses qui me pousse à faire ce film, c'est la condition féminine partout. Partout, les gens, les hommes font du mal aux femmes, et quelquefois d'une manière extrême, et sous tous les climats. Et il ne faut pas faire comme si on ne le savait pas, et je veux en reparler, et je veux que ça arrête. Bon, ça n'arrêtera pas, mais on peut faire des efforts. Et c'est monstrueux, et je ne supporte pas l'injustice et la bêtise. Voilà, et je vais parler des femmes maltraitées, et les femmes, ça commence petit. Et les petites filles sont maltraitées aussi. Et c'était évident que l'héroïne devait être une petite fille. C'est le sujet.
D'accord. À chaque fois que vous faites un film, vous réalisez un film, Michel Oslo, il y a une partie en solitaire, un travail en solitaire, puis un travail en équipe. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux phases comme ça et comment vous les vivez?
J'aime énormément la solitude et j'aime énormément la compagnie. Oui. Cet été, par exemple, j'étais complètement seul. J'ai bien travaillé, j'étais bien. Mais à mesure que les gens arrivent, je suis content. Donc, j'ai une heureuse nature. Mais j'aime énormément la solitude. Et pour inventer, j'ai besoin de la solitude. Et même du silence. J'aurais du mal à faire comme Simone de Beauvoir et tout écrire dans un café. D'abord, dans un café, c'est trop intéressant. Je regarde autour de moi. Parce que j'aime bien être dans un café, mais je regarde. Donc, je commence. L'histoire, c'est seul. Les premiers dessins, c'est seul. Mais petit à petit, des gens viennent et je suis très content. Est-ce que je peux revenir aux difficultés pour le film?
Bien sûr.
Parce que j'ai montré une chose assez inquiétante, mais le vent a tourné. Il faudrait quand même que je vous le dise, hein, pour que vous dormiez bien ce soir. Le vent a tourné avec des distributeurs qui ont aimé le projet. Et comme j'ai dit dans une soirée précédente, les distributeurs, c'est très, très important. On a besoin des distributeurs pour que le film sorte de l'étagère et rejoigne des cinémas et des spectateurs. Donc ça, c'est un point important. Finalement, le CNC m'a donné l'avance sur recette, ce qui fait que j'ai tout à coup l'approbation de la profession qui jusqu'ici me rejetait franchement. Ensuite, on a demandé à Arte si ce projet les intéressait. Et oui, et c'est ce qu'on appelle Grand Arte, c'est-à-dire Arte France, qui est une télévision normale, et Arte Allemagne, qui est l'association de 5 chaînes de télévision. Et les 5 plus la française ont dit « c'est le sujet qu'il nous faut ». C'est le long métrage d'animation que nous voulons produire.
Oui, parce qu'il finance seulement un film d'animation par an.
C'est ça. Et que Grand Arte, c'est-à-dire Arte France et 5 télévisions allemandes disent c'est le sujet, le film qu'on veut, ça change tout. Je suis accepté et désiré et j'ai maintenant une assise internationale. Et aussi, maintenant, j'ai eu une aide de l'Europe. Donc, en gros, tout va bien. Sauf qu'il n'y a pas assez d'argent. Et je crois que ce film va se faire en 3D, en 2D et en système D.
C'est joli, jolie formule.
Le système D, je l'ai beaucoup pratiqué. Mais quand même, c'est un film de luxe et il n'y a pas assez d'argent. C'est un peu triste.
Ça veut dire que la fabrication en France, auquel vous tenez beaucoup, à laquelle vous tenez beaucoup, Michel Oslo, n'aura pas lieu ou ce n'est pas encore tranché?
Je pense qu'il y aura des éléments qui seront faits à Bruxelles, mais le plus gros se fera à Paris. Et ça serait trop triste de faire un film qui célèbre Paris, de ne pas le faire à Paris. Dans le lieu où j'habite, dans la ville où j'habite et que j'apprécie.
En effet. J'ai eu la chance de voir à quel point vous aviez le goût de parler à des enfants après une projection, par exemple au Forum des images, ou comment vous accueillez très généreusement des collégiens sur vos productions. Est-ce que c'est à vos parents, instituteurs bienveillants, que vous devez ce goût de transmettre votre art, Michel Oslo?
Oui, c'est quelque chose que je n'ai jamais analysé, mais mes parents étaient là pour transmettre des choses qu'ils savaient, et c'est clairement ce que je fais. Et je sens que c'est quelque chose de très important, c'est fondamental. Je pense que l'enseignement, c'est ce qui nous distingue des animaux. On transmet des choses et des choses très avancées. C'est-à-dire que on transmet pas seulement comme un chat, une chatte à ses petits chats, des choses qu'elle sait et c'est important qu'elle les transmette aux petits chats, mais seulement elle n'en sait pas plus qu'un chat égyptien du temps de Ramsès II, tandis que nous en savons beaucoup plus qu'un égyptien du temps de Ramsès II, c'est que c'est l'humanité et on apprend sans arrêt. Et ça me plaît, c'est une mission qui me plaît et que je pratique volontiers. Et c'est merveilleux de parler avec le public et avec les enfants qui parlent plus facilement que les adultes. Et quelquefois, j'ai des relations extraordinaires avec une petite voix dans le public.
Vous devez être très sollicité par les écoles de cinéma, j'imagine, Michel Oslo, pour enseigner.
Je ne suis pas si sollicité que ça, mais ces dernières années, j'ai enseigné dans un institut qui préparait des diplômes de métier d'art. Donc 2 ans pour se faire l'animation et voir si vraiment on voulait le faire ou pas. Et je le fais très volontiers et je montrais 2 choses. D'une part, faire de l'animation avec des objets et faire bouger des choses qui ne bougent pas et sans passer par l'ordinateur pour avoir la surprise de l'image-image qui fait bouger des choses qui ne bougent pas et jouer avec des matières qu'on reconnaît. Et d'autre part, écrire des histoires. C'est ça que je préfère. Là, j'ai arrêté à cause de Dilili. Ça va être un travail trop lourd. Et comme pour les histoires, au lieu de demander une histoire, j'en demandais 6, ça me faisait 6 fois plus de travail pour la correction des copies, les discussions. enfin bref, j'ai arrêté, mais je recommencerai après Dilili. Ce que j'ai envie d'enseigner, c'est les histoires. Comment livrer ses tripes et son cœur et bien les ficeler pour qu'on comprenne. Et ça, j'ai envie de le transmettre. Mmh. Parce que en ce moment, la France est brillante en animation. Les écoles sont renommées dans le monde entier. Et ce qui manque ici et ailleurs, c'est de très 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 bonnes histoires. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je ne sais pas comment on fait pour enseigner ça, mais je suis là et on peut au moins me poser des questions.
Vous avez reçu tout au long de votre carrière beaucoup de prix, Michel Oslo, et en juin 2015, le festival Anima Fest de Zagreb en Croatie vous a décerné un prix pour l'ensemble de votre œuvre. Comment l'avez-vous vécu ?
Je déteste ça. j'ai vu arriver ce prix il y a longtemps, quand j'étais très actif dans les associations d'animation, et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir aussi peu de sensibilité pour donner un prix à un vieux en lui disant, t'es fini, voilà un prix. Et bon, et cette année-là, ça m'est tombé dessus. Je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que j'ai l'intention de continuer. Mon œuvre n'est pas terminée. Là, pour Dilili, j'ai des difficultés de débutant. J'y arriverai. Et après, j'ai toutes sortes de projets. Voilà, mais ceci étant dit, j'aime bien qu'on me donne des prix. C'est surtout un festival, des gens qui bouffent du film continuellement et qui éprouvent le besoin de me donner une médaille. Oui, bon, je... D'accord.
Vous prenez quand même, malgré tout, Michel Oslo. Vous avez dit, il y a quelques années, l'idéal, c'est la fin de Molière, mourir au travail en charmant les gens. Est-ce toujours votre idéal?
Oui, absolument. Oui, c'est, tout ça s'enchaîne et c'est pour moi la fin idéale. Et j'ai la chance d'avoir un métier dans lequel on peut durer. Je sens en ce moment où j'ai passé l'âge de la retraite que j'ai jamais été aussi costaud. J'ai jamais aussi bien dirigé mes pensées, j'ai jamais aussi bien dit aux gens ce que je voulais. Et puis il y a aussi, à part les difficultés dont je viens de parler, il y a aussi que les gens aiment bien travailler avec moi. C'est extraordinaire et c'est comme ça qu'on va faire un très bon film. Les gens qui travaillent avec moi sont des cinéastes qui ont envie de faire ce film. Ce ne sont jamais des employés. Ils ont envie de le faire.
De bonnes conditions pour de bons films. Merci beaucoup, Michel Oslo. Merci.
Ah, mais c'est déjà fini.
Oui, c'est fini.
mais on n'en a pas dit la moitié.
Fin de cette rencontre de Corinne Renou-Nativelle avec Michel Oslo. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Philippe Etienne, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.